Cette rencontre a pour pivot de présenter un auteur qui est Nicolas Vargas, qui est ici présent. Pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, donc je m'appelle Alain Julien Rudefoucault. Et Nicolas m'a demandé si j'acceptais de l'accompagner dans cette présentation, ce que j'ai fait avec plaisir, puisque je connais Nicolas déjà depuis un petit bout de temps. Et Nicolas était arrivé dans un groupe d'écrivains qui, à l'instigation de Jean-Philippe Ibos et de moi-même, ainsi que de Sergio Guagliardi, qui est décédé, un groupe d'écrivains bordelais se rencontrait 4 fois par an pour mettre à l'épreuve le travail de chacun et pour critiquer férocement le travail de chacun. Tout l'intérêt était surtout dans la férocité, qui se terminait et qui s'accomplissait par une application sadique orale en mangeant après la réunion. Et alors que le groupe avançait sur ses débris, un beau jour donc Nicolas est arrivé avec des textes de théâtre. Et il faut que vous sachiez que chez ces écrivains, il y avait des novellistes, des romanciers et des écrivains, des dramaturges. Et donc, pour ma part, je contribuais dans les trois domaines et Nicolas est arrivé avec aussi des nouvelles et du théâtre. Et donc, ce groupe qui existait dans les années 96 et qui a existé un petit bout de temps, a vécu jusque 2004, je crois, quelque chose comme ça, ou 2005. Suite à ça, les échanges littéraires qu'on avait avec Nicolas ont été très centrés sur le théâtre. Alors, on va s'attacher ce soir à présenter le trajet un petit peu de Nicolas, d'où il vient, où va-t-il. Et puis aussi son objet de travail. Au début, quand j'ai rencontré Nicolas, je ne savais pas qu'il était enseignant. Et je l'ai su plus tard. Donc, vous voyez, il avait facilement endossé le costume de l'auteur, puisque moi-même, je ne m'étais pas posé la question. Je pensais qu'il était un auteur chanceux, comme il y en a peu en France, c'est-à-dire qu'il arrivait à vivre de son écriture. Et en regardant, par la suite, j'ai su qu'il avait été enseignant. Et donc, la première question, c'est, parce que je sais que tu as quitté l'enseignement depuis peu, la première question, c'était comment on maintient en même temps l'activité d'enseignant, si tu peux nous dire aussi ce que tu enseignais. Et comment on maintient parallèlement l'écriture? Si je pose cette question, c'est parce que je pense que ça n'a aucun rapport d'être enseignant et d'écrire. Ça sera la première question sur laquelle on va revenir, si tu veux bien. Et en même temps, on va présenter dans une deuxième partie la pièce qui nous occupe. Et étant déjà au moment où je rencontre Nicolas, directeur de collection dans des domaines qui sont plutôt scientifiques. J'avais fondé une collection de littérature parce qu'il y a une grande préoccupation qui est le rapport qui existe entre le dramaturge et la connaissance de son œuvre. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc peu importe, en tout cas je le rappelle à ceux qui le savent, il y a très peu de collections de théâtre en France. Et peu de personnes sont élues dans ces collections, puisque la plupart du temps, il faut faire partie d'un réseau préétabli. Ces collections de théâtre, ou ces éditions de théâtre, une fois qu'on y est entré, ils disent un peu toujours les mêmes. Donc j'ai créé donc une collection à Paris qui est ouverte, pas n'importe comment, bien évidemment, aux auteurs de théâtre, de récits, de poésie, c'est-à-dire toutes ces éditions un peu difficiles qui font que les éditeurs ne peuvent pas éditer ces textes sans soutien de l'État, du ministère de la Culture. Donc il était très important de créer une collection qui justement ne passait pas par ces biais et permettait aux auteurs de faire connaître leurs textes, car toute la difficulté dans le théâtre, c'est pas uniquement d'être joué. Là, on va le dire très vite, il y a à peu près 10 000 auteurs en France et il y a très peu d'auteurs qui sont joués. Quand on sait que la moyenne des représentations de théâtre actuelles oscille entre 3 et 5 représentations par titre, on aura vite vu que quand on est auteur de théâtre, il vaut mieux pratiquer autre chose à côté que d'attendre que le théâtre vienne nourrir l'écrivain. Et enfin, surtout, c'est que pour monter le théâtre en France, vous savez que c'est le pays de la rapidité et d'une légèreté administrative considérable. Et donc, entre le moment où une pièce est acceptée et le moment où on monte une pièce en France, il faut compter à peu près 3-4 ans. Pour donner une idée, en Allemagne, c'est 4 mois, hein, ainsi qu'en Angleterre. Voilà, on revient sur ma première question. Mmh. Hein. Le parcours du héros.
Alors le parcours, effectivement, c'est pas un hasard qu'on évoque un petit peu ce parcours, puisque la pièce dont on va parler tout à l'heure, elle est évidemment en lien avec ça. Tu posais la question, être enseignant et être écrivain en même temps, on ne dort pas beaucoup. Voilà, tout simplement, parce que le métier d'enseignant prend énormément de temps. Et le métier d'écrivain, en tous les cas, l'activité d'écrivain, en prend aussi. Et en l'occurrence, pour moi, c'était la nuit, essentiellement. Donc, au bout d'un moment, le corps se fatigue. Et n'avoir plus que quelques heures de sommeil, c'est pas suffisant. Donc, à un moment donné, effectivement, j'ai fait ce choix de quitter l'enseignement, pour d'autres raisons aussi, mais pour essayer de tenter cette aventure-là et d'avoir plus de temps à consacrer, en journée également, à la littérature. Alors, pourquoi le théâtre aussi ? Parce que, comme tu l'as dit, j'écrivais au départ des nouvelles et je suis venu au théâtre un petit peu par hasard. Tout simplement parce que l'entourage, et en l'occurrence mon épouse, est metteur en scène. Donc ça facilite quand même la possibilité de faire jouer ses textes. Et ça, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir faire jouer toutes les pièces que j'avais écrites. Donc, elle n'a pas monté tous les textes, mais enfin pas loin. D'autres aussi en ont monté. Mais c'est vrai que cette proximité avec le monde du théâtre, la mise en scène et les comédiens, tout ça fait que je me suis mis davantage à écrire du théâtre. Même si au départ, c'était quelque chose qui n'était pas du tout gagné, puisque dans ma façon d'écrire, et notamment dans les nouvelles, ce pour lequel j'avais le plus de difficultés, le plus de mal, c'était d'écrire les dialogues. Donc ça peut sembler paradoxal, mais au départ, les premiers textes de théâtre, il a fallu que je fasse... que je me fasse vraiment violence, parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'écrire. Quoi.
Oui, c'est d'autant plus que lorsque tu arrives dans le théâtre, il y a l'extinction, enfin en tout cas la chute d'une mode qui existait à l'époque dans le théâtre, qui avait commencé à monter en tout cas qui faisait florès, c'était d'écrire un théâtre qui était non pas nourri du dialogue, lesquels dialogues par leur avancée construisaient la dramaturgie, mais d'écrire un théâtre qui était des monologues juxtaposés. Mmh. Et avec quelque chose qu'on peut qualifier d'une sorte de dramaturgie un peu mosaïque, vous voyez, dans lesquelles le spectateur fabriquait le lien dramaturgique. On assistait à une succession comme ça de monologues. Alors, un des auteurs qui était assez frappant dans ce domaine, et qui me disait d'ailleurs que sa chance, ça avait été la mode du monologue, c'est Mignana, qui était très, très, très porté là-dessus, et qui en fait considérait à l'époque, quand on en a parlé, c'est-à-dire en 92-93, qui considérait à l'époque que sa pièce la plus classique, c'était pas celle-là, c'était en fait Les Guerriers, qui était une alternance de monologue et de dialogue. Alors il est vrai que pour quelqu'un qui a de la difficulté à écrire un dialogue, enfin quand même, tu t'en sors pas trop mal, quoi, parce que t'as passé le cap.
Mais ça s'est fait petit à petit là aussi, parce qu'effectivement, j'ai un certain nombre de pièces où une part est donnée au monologue. Mais c'est vrai que très rapidement, et ça c'est une chance aussi, c'est-à-dire que les textes que j'ai écrits, assez vite, je savais qu'ils allaient être joués.
Oui.
Et ce qui fait que je n'ai pas écrit dans le vide.
En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est si tu écrivais pour ta femme ou pour un metteur en scène. Hein.
Voilà.
Ça devient très vite. on ne veut pas tout ça non plus, quoi, mais bon.
Mais en tous les cas, dans le fait de devoir écrire, en sachant que un certain nombre de personnages vont jouer et veulent jouer, eh bien, ça oblige justement à donner des répliques aussi aux uns aux autres. Et c'est aussi comme ça que j'ai travaillé et progressé dans cette façon d'écrire comme ça.
Il me semble qu'il y a là, dans le travail de Nicolas, quelque chose qui est un exemple, non pas que ça lui appartienne en propre ou exclusivement, hein, mais un exemple de la transformation d'un défaut ou d'une difficulté en qualité. Quand on ne peut pas écrire des dialogues, c'est-à-dire quand on ne peut pas maintenir des personnages dans le même champ symbolique, c'est-à-dire qu'ils s'expriment sur le même terrain, puisque le dialogue apparaît de manière synchronique, il est dans le même ici et maintenant. Et maintenant, les personnages en même temps. Cette difficulté, donc, elle a été contournée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu, parce qu'un auteur est toujours très mal placé pour analyser son travail, c'est pas plus mal. Cette difficulté, donc, à maintenir un parcours synchronique de personnages différents, s'est transformée en le maintien des personnages dans des territoires différents. Il y a par exemple une pièce, je crois que c'est Goutte...
Goutte à goutte.
Voilà, oui, Goutte à goutte. Ma mémoire ne fonctionne pas très bien ce soir. Dans Goutte à goutte, il y a quelque chose où les personnages sont dans un champ imaginaire et pas les autres. Vous voyez ? Ou bien on peut voir surgir un personnage d'un champ, on va l'appeler une topie, si vous voulez bien, et puis le personnage est dans une autre topie. Hein. Donc cette dystopie, cette différence qu'il y a, est issue, selon moi, de la difficulté à écrire le dialogue. Et c'est un... Monsieur Vargas, c'est un joli cas de littérature, puisqu'on voit surgir une solution créative là où il y avait même une impossibilité. C'est très intéressant. Alors ça entraîne cependant des difficultés sur le plan dramaturgique, non pas sur le plan de la narrativité qu'il y a à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire, si vous voulez bien, de ce qui est raconté, mais il y a une difficulté dans la dramaturgie du spectacle, puisqu'il est très difficile à ce moment-là de faire passer cette dramaturgie univoque et pour un spectateur qui, lui, est obligé de décoder. Autrement dit, c'est toujours quelque chose qui est un peu sur la corde raide et qui nécessite un travail extrêmement précis, l'utilisation, notamment dans le domaine de l'utilisation de l'espace scénique. En effet, si on maintient un personnage imaginaire, si vous voulez bien, sur le fond en arrière de la scène, à arrière gauche, à partir du moment où le spectateur va avoir encodé cette place-là, il sera très difficile d'utiliser cet espace comme étant autre chose. Il va falloir introduire une rupture dialogale. Ça, c'est la première remarque Il y a quelque chose qui est réussi, hein. Il y a un mouvement, un processus qui est réussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la difficulté même qui introduit une spécificité. Moi, je me souviens, la première pièce que j'avais lue, donc Nicolas, je lui téléphone, je lui dis, mais tu veux raconter quoi ? Tu veux raconter quoi ? Alors, c'est vrai que lui, il ne savait pas trop non plus, hein, mais tu veux raconter quoi ? Non pas au sens où je lui disais, raconte-moi une seule histoire, c'est pas ça du tout, mais c'était, tu veux raconter quoi ? Parce que je voulais bien m'assurer auprès de lui si je comprenais bien ce qu'il voulait faire. Parce que le problème du théâtre, c'est qu'une fois que la représentation est faite, eh bien, c'est le spectateur qui a raison. C'est-à-dire que si le spectateur dit qu'il n'a rien compris, eh bien, c'est la faute du metteur en scène, des comédiens ou de l'auteur, mais ce n'est certainement pas la faute du spectateur. Bien que ça soit à la mode de dire que c'est le spectateur qui n'est pas assez intelligent pour comprendre la grande œuvre qui était montrée sur scène. Ma deuxième question, c'est quelle incidence ça a quand même d'écrire pour quelqu'un ? Est-ce que, alors c'est une vraie question, hein, est-ce que ça entraîne une sorte de désir, est-ce que le désir de séduction, si tu préfères, esthétique ou intellectuelle, ne vient pas obérer, est-ce que ça vient obérer la créativité ou pas ? Est-ce que ça vient l'infléchir ? Est-ce qu'il y a aussi, dans les limites de la compréhension de l'autre, alors parce que, il n'y a pas de péjoration, hein, tout être est limité, quoi. Est-ce que dans la limite de la péjoration de l'autre et la limite du travail qui pourrait entraîner une péjoration du travail, c'est-à-dire je suis en train d'écrire un texte pour quelqu'un, mais il ne va pas forcément comprendre ce que je veux dire, donc je vais encoder différemment ce que je vais faire. Il y a une péjoration de l'écriture et une péjoration du travail de mise en scène. Enfin, comment tu t'en sors de tout ça, là ?
Alors, en général, moi, je pars avec quelque chose... Un thème, un objet de pensée sur lequel j'ai envie de parler, sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Donc ça peut être le couple, ça peut être l'inceste, ça peut être l'alcool, ça peut être l'enseignement dernièrement, mais en tous les cas des choses dont j'ai envie de parler, et surtout des choses que j'ai envie de voir sur scène. Parce que, pour faire un petit détour avant de répondre directement à la question, avec le théâtre, j'ai une drôle d'histoire quand même. C'est-à-dire que je m'y suis le plus souvent parfaitement ennuyé en tant que spectateur. Et du coup, c'est aussi en réaction à ça que j'ai voulu écrire du théâtre. En me disant, mais... moi, c'est ça le théâtre que j'aimerais voir. Donc, j'écris en réalité des pièces que j'aimerais voir en tant que spectateur. Et le premier travail, il vient là. Après, une fois que mon travail est lancé, je vais jusqu'au bout du travail, je le termine. Et puis, il y a effectivement la confrontation au plateau. Et là, bien souvent... En tous les cas, maintenant, je fais attention à ça. Bien souvent, je sais que je vais avoir un temps pour resserrer l'ouvrage, pour voir ce qui tient pas sur le plateau lui-même. Et là, à ce moment-là, je vais reprendre mon texte et je vais essayer de serrer les boulons, comme on dit. Je ne crois pas que ce soit le désir de plaire qui me fasse écrire d'une manière ou d'une autre.
De plaire à la personne qui veut mettre en scène.
Ouais. Non, j'ai pas ça. J'ai eu des expériences comme ça avec d'autres metteurs en scène où une fois que j'ai livré mon texte, moi j'y touche plus. C'est plus mon problème.
Oui.
C'est le problème du metteur en scène. Ou alors à ce moment-là, il faudrait que je monte mes propres textes.
Non, ma question, ouais, c'était pas tant à ce niveau-là que surtout en amont. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'est arrivé de percevoir en toi un mouvement d'infléchissement de l'écriture au motif que tu écrivais en pensant que telle personne allait monter le texte ? Tout non. À l'heure, tu nous disais que tu avais eu beaucoup.
Pas par rapport, pas par rapport à la personne qui allait monter le texte. J'ai pu infléchir mon écriture par rapport aux personnes qui allaient le jouer. mais pas par rapport à la personne qui allait le monter. C'est-à-dire que quand j'ai écrit des textes, en sachant ce qui m'est arrivé, que tel comédien allait jouer ce rôle-là, alors il m'est arrivé effectivement de me dire « Non, ça, je peux pas l'écrire comme ça, ou ça, ça n'ira pas avec ce comédien-là. » Et là, j'ai pu infléchir mon écriture. Mais par rapport au metteur en scène, non, je vois pas...
T'es jamais arrivé de censurer ce que tu mettais ?
Ah non, du tout.
De toute façon, tu vas pas le dire si tu l'as fait.
Non, mais en plus, je ne le crois pas. Non, je crois pas.
Tu parlais des thèmes tout à l'heure. Tu m'avais donné un petit tableau où tu avais regroupé les thèmes du théâtre. On a le couple et la sexualité, travaux pratiques. On a la télévision, l'inceste et les secrets de famille, alcool, violence, le couple, l'écriture, la famille, l'illusion, le couple, l'écriture, le désir, le monde du travail, c'est une pièce que je ne connais pas celle-là, le milieu enseignant, et des adolescents quand même. Le départ, je ne connais pas. Petit-fils, corrida, l'environnement, l'intergénérationnel, Alzheimer, famille, etc. Et enfin, la dernière, qui sort cette fois-ci du microcosme.
Sur la Première Guerre mondiale.
Oui, parce qu'on est toujours dans un microcosme. C'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'on tourne autour de l'inceste, autour de la famille, autour des problématiques du couple. Ça serait bien qu'un jour, il y ait un dramaturge qui se mette à écrire le plaisir du couple, quand même. pourrais t'y coller, peut-être.
Le bonheur est une page blanche, je crois.
Oui, mais enfin, on peut écrire dessus, quand même.
Ouais.
Et puis, il y a cette guerre mondiale. Alors là, on va commencer par la fin, si tu veux bien. Alors, la Première Guerre mondiale, on était en train de discuter du titre tout à l'heure, puisque Nicolas va le publier donc, dans la collection Écrit 21, que je dirige. Et... c'est quoi? C'est l'époque? C'est parce que 1914 arrive? C'est dans son anniversaire?
Il y a plusieurs choses. En fait, on m'a parlé de ce thème-là qui intéressait une troupe de théâtre sur Carbon Blanc, sur la région. Et puis, moi, c'est quelque chose qui, pour une histoire, par rapport à une histoire personnelle, celle de mon arrière-grand-père, m'intéresse depuis très longtemps.
On retrouve la famille, là.
Mais oui, voilà. Et donc, bah, c'était vraiment l'occasion de travailler là-dessus. Et effectivement, comme tu l'as dit, pour une fois, de vraiment m'éloigner.
Ouais.
Et ça a été une expérience littéraire très forte parce que tout d'un coup, j'ai fait aussi un travail de recherche. Et finalement, j'ai éprouvé, je crois, peut-être plus de liberté encore à écrire là-dessus. Puisque là, je n'avais pas à me poser la question de si on allait reconnaître un certain nombre de choses ou pas, ou ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc là, le travail littéraire s'est orienté vers quelque chose de nouveau.
Alors, tu disais, je ne me suis pas posé la question de savoir si on allait reconnaître quelque chose. C'est tout à fait une question, enfin l'attente que j'avais, c'était la question narcissique et la question du miroir dans ton écriture. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai souvent la perception que l'écriture de théâtre a été utilisé aussi pour étant un lieu scénique dans lequel les personnages sont des personnages du rêve. Alors, je voudrais être un peu plus précis dans le commentaire. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai eu le plaisir de relire là ces temps-ci, qui s'appelle Pirandello. Et cet auteur évoque quelque chose qui est majeur sur le plan théâtral, à savoir qu'il parle des personnages indépendants de l'auteur comme présentant une réalité théâtrale qui leur est propre. Et il va jusqu'à d'ailleurs écrire les linéaments de cette théorie dans une pièce qui s'appelle « Six personnages en quête d'auteur ». Et là, quand je regarde le tableau synoptique de ton travail que tu m'as passé, Je me demande quand même si t'es, si t'es pas un virage là extrêmement important dans l'écriture et si tu quittes pas le champ narcissique, mais il y a pas de là aussi il y a pas de
Ouais, non,
péjoration
je
dans ce que
comprends bien.
j'évoque, hein, le spéculaire si tu préfères, hein. C'était une écriture spéculaire, c'est-à-dire qu'elle était nourrie des problématiques personnelles ou déformées, mais
Ben, je comprends.
enracinée toujours là-dedans. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Qui s'ouvre, qui va ailleurs, c'est très important pour un écrivain de, hein, de quitter l'aspect spéculaire. Je crois que c'est. Il me semble qu'on est à l'orée d'une nouvelle époque de ton écriture. Je voudrais revenir sur ta remarque tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait une facilité à avoir une personne dont on était assuré qu'elle allait mettre en scène le travail. Il est vrai que ça soulage beaucoup, ça soulage beaucoup l'attente, une inquiétude sur le texte. Alors, c'est un commentaire, hein. C'est une chance, mais je pense que ça peut être aussi une difficulté. Un jour, j'ai appris par toi que tu allais être joué au Canada, à Toronto. Bon, à Toronto, c'est pas des francophones, mais comment. Et pourquoi à Toronto? Comment ça s'est passé? Raconte-nous, parce que là, je disais tout à l'heure qu'il y avait très peu d'auteurs qui arrivaient à être joués en France. Il faut que tu nous expliques, parce que.
Là, c'est pareil, il n'y a pas de magie. C'est la rencontre. Moi, je crois beaucoup, beaucoup en la rencontre humaine. C'est-à-dire que de la même façon que le théâtre, en tous les cas, j'ai pas envie de l'écrire dans le vide. Ça ne me dit rien. Donc, je rencontre des gens, et en l'occurrence, là, un metteur en scène qui connaît des pièces, qui en a vu auparavant. Et qui me dit, voilà, j'aimerais bien monter un de tes textes, mais un qui n'existe pas encore.
En français?
Voilà. Et donc, à partir de là, l'aventure se lance. J'ai l'impression, moi, souvent, à part peut-être les tout premiers textes, mais qui font ouais, ce qu'on appelle des commandes. Souvent, il y a un côté péjoratif dans la commande parce qu'on répond à quelque chose. Et en réalité, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que tout d'un coup, je sais pourquoi je me mets au travail. Je sais aussi pourquoi j'écris. Et c'est pas simplement le fait, comment dire, mon épouse, certes, a mis et met un certain nombre de mes pièces en scène. Mais je sais aussi qu'elle ne va mettre en scène que ce à quoi elle croit, de la même façon qu'un éditeur aussi va dire, bon, d'accord, je facilite, mais si vraiment c'est pas bon, je mets pas en scène ou je n'édite pas. Donc, là c'est un peu la même chose. Et pour moi, écrire du théâtre, c'est vraiment aller à la rencontre de ces histoires-là, parce que je sais que tout d'un coup je vais vivre une aventure, moi tout seul en train d'écrire, ça me va très bien. Et ensuite, cette chose-là, cet objet, est pris en main par quelqu'un d'autre. On va discuter aussi, il y a une aventure humaine, il y a vraiment la sensation de l'aventure humaine. Et ça m'intéresse.
Si tu veux bien, on pourrait appeler la motivation d'écriture dans ce que tu viens de décrire là comme étant un appel du dehors. Est-ce que tu as la perception? Je crois qu'il faut que tu nous précises si le mouvement d'écriture théâtrale est un mouvement d'écriture qui pour toi a toujours démarré à partir d'un appel du dehors. Ou bien si tu t'es plus souvent trouvé en panne. Là, j'aborde la question du travail littéraire même. Il nous est arrivé souvent de dire, tiens, ça serait marrant qu'on fasse ça. Bon, c'est une chose, c'est ça, c'est l'appel du dehors. Mais je voudrais orienter ma question vers celle de la nécessité intérieure.
Ouais. Alors, elle existe évidemment, et c'est sans arrêt un aller-retour, un va-et-vient entre ces deux pôles-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de fois où j'avais envie d'écrire et j'avais besoin d'écrire un certain nombre de choses et je me débrouille à ce que le désir il vienne aussi de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que j'ai commencé à écrire, on me le demande, mais c'est moi parfois qui initie quand même aussi cette écriture-là. Sur Goutte à Goutte, oui. Notamment, personne ne m'a demandé une pièce sur ce thème-là. Oui. J'avais envie de parler de cette situation de l'alcool et surtout ce qui m'intéressait pour cette pièce, puisque c'est une pièce qui est fabriquée, la pièce doit durer 1h, 1h10, et en fait tout se passe sur le quart de dixième de seconde entre le moment où un type va fracasser une bouteille de vin sur la tête de sa femme. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler la notion du temps, d'exploser le temps comme ça et de faire que ce dixième de seconde dure 1 heure. Alors je me suis mis à travailler ça. Et comme je le travaillais et comme j'étais sans doute enthousiaste dans le fait de le travailler, bah, des gens autour de moi se sont dit « Ah bah tiens, ça nous intéresse aussi.
» Ce qui veut dire que t'en parlais pendant.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà conduit une écriture dans une solitude absolue ? C'est-à-dire écrire une pièce de théâtre sans jamais en parler
Sur le théâtre, non, je ne crois pas. Ok. Ce qui est de l'ordre là de ce dont tu parles, c'est le roman.
Juste encore quelque chose sur le théâtre. Une des pièces, et notamment celle-ci, oui, c'est celle-ci là, oui, traite de l'enseignement. Là, on n'est pas du tout dans l'aspect fantasmatique dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a l'utilisation des lieux différents. On a plus affaire à quelque chose qui est scénaristique, mais qui est théâtral et non pas cinématographique. Comment c'est venu cette idée-là ? Alors, si tu peux nous résumer la pièce et nous en parler un peu.
Alors sur cette pièce, c'est un diptyque. Donc dans une première partie, on se retrouve pendant 24 heures dans une salle des profs. Il se trouve que ce matin où ils arrivent au boulot, 5 adolescentes ont disparu, 5 lycéennes. Donc toute la journée va se passer de façon un peu étrange, d'autant plus qu'on s'approche des vacances de Noël, que les gens sont très fatigués, et ça va très mal se terminer, puisque un des enseignants va, sous le coup de tout un tas d'émotions, planter une lame de ciseau dans le cou d'une de ses collègues, ce qui n'est pas forcément sympathique.
C'est Hitchcockien, mais pas sympathique.
Voilà. Là aussi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de pouvoir montrer un lieu que personne ne voit à part les enseignants, c'est-à-dire que personne ne rentre dans une salle des professeurs. Éventuellement un élève qui vient porter un polycope pour un autre prof, mais alors vraiment le plus vite possible. Les parents ne sont pas reçus en salle des profs, ils sont reçus ailleurs. Et donc là, j'avais envie de placer mon point de vue au cœur de cet endroit-là. Et de montrer les enseignants, les profs, comme peut-être on ne les voit pas habituellement, puisqu'on parle toujours du corps enseignant, comme s'il était unique, de ce monolithe, de ce mammouth. Enfin, c'est toujours des choses très singulières et très colossales. Et moi, j'avais envie de morceler un petit peu tout ça et de montrer les singularités, les spécificités de ces gens, de ces êtres humains là-dedans, qui font un boulot très complexe. Et la deuxième partie de ce travail, c'est ces 5 adolescentes qui ont disparu. En fait, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, elles ont décidé, elles, de se tailler et de jouer avec ce qui aujourd'hui fait le buzz, tout un tas de choses comme ça, ce qui fait qu'elles se servent du monde dans lequel elles vivent pour, en réalité, à un moment donné, pouvoir avoir la parole et pouvoir dire, puisque ça, il y a une espèce d'appel d'air, tout d'un coup, elles ne sont plus là. Tout d'un coup, évidemment, on passe aux catastrophes, etc., etc. Et en fait, elles vont décider d'écrire un manifeste. Manifeste qu'elles ne pourront pas écrire, puisque, paradoxe de la situation, c'est l'information comme quoi un prof a été poignardé qui va complètement effacer cette information de ces 5 adolescentes qui avaient disparu. Donc le travail, il était autour de cette chose-là et de pouvoir travailler aussi, puisque ce que je voulais au départ avec cette chose-là, c'était lancer un feuilleton théâtral. Alors c'est un appel aussi, mais devant
À la radio?
à la radio ou alors carrément dans un théâtre. Suivre comme ça, par exemple, une dizaine d'enseignants et donner l'occasion à un auteur de théâtre contemporain, vivant, de pouvoir écrire la suite et pourquoi pas de faire sur une année, tous les 2 mois, la suite de ce
Avec d'autres
travail-là.
auteurs, alors.
Oui, avec d'autres auteurs, les mêmes comédiens,
Tu veux faire le poulpe au théâtre, quoi.
mais voilà, mais d'autres auteurs. Un
Ouais,
peu ce qui se passe. Au niveau des séries actuelles.
ou le poulpe.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je quittais le monde de l'enseignement aussi. C'était une manière d'en reparler.
Ça, c'est la dernière pièce. Tu parlais de romans. Tu as des romans en cours, là?
Bah, j'ai un roman en
On veut
cours
savoir.
depuis. Ouais, j'ai un roman en cours, mais alors, comme tu le disais, ça, c'est la chose dont je ne parle
Tu parles
pas.
pas,
Ouais.
d'accord. Il est malin. Hein? Ce qui fait qu'on ne sait pas s'il travaille vraiment. Les ateliers d'écriture, quel est l'intérêt de faire des ateliers d'écriture pour un écrivain?
Alors, c'est à la fois un métier, une activité, puisque comme tu le disais, j'ai quitté l'enseignement, c'est pas les pièces de théâtre qui nourrissent son homme. Et d'un autre côté, c'est quelque chose que je trouve. Qui me sert aussi, moi, malgré tout. Parce que dans les ateliers d'écriture, il y a quand même la notion de contrainte. Moi, je travaille pas mal avec cette notion de contrainte et cette notion de stylistique. Plus ça va, plus c'est ce qui m'intéresse de faire travailler en atelier d'écriture. Parce que je crois que c'est là que la littérature se glisse. C'est pas sur une histoire, tout le monde peut raconter une histoire.
Alors c'est très intéressant parce que la stylistique, enfin je ne sais pas si certains ici en ont fait, mais
Si, si.
c'est. Non, non, non.
Non, non.
Et la stylistique, c'est quand même. Enfin, d'abord, c'est passionnant. Enfin, c'est l'art de raconter avec des constructions différentes la même idée. Et qui utilise. Alors, c'est pas de la rhétorique, mais enfin, c'est pas loin. Et c'est assez. Enfin, c'est quelque chose qui était tombé en désuétude un peu, qu'on enseignait il y a longtemps. Enfin, moi, je me souviens que.
Ouais.
J'ai eu des cours de stylistique et puis pas de manière aléatoire. La deuxième chose, c'est que tu indiquais que tu es chargé de cours à l'université de Bordeaux 3. Tu enseignes quoi là?
Alors en fait, là aussi, il y a à la fois des ateliers d'écriture et puis des modules d'élaboration, de conception de projets artistiques.
Ah oui.
Voilà.
Et qui concerne le théâtre?
Non, non, pas nécessairement. Il y a
Non.
des ateliers d'écriture théâtrale, ouais, il y en avait encore un ce matin, mais pas exclusivement en tous les cas.
Mais l'atelier d'écriture à toi, ça t'apporte quoi?
Ça m'apporte un.
Vraiment.
Bah, ça m'a vraiment.
Oui, vraiment.
Ouais, vraiment. Bah, ça me. Ce qui.
Oui.
Non, ce qui peut être vraiment intéressant là-dedans, c'est. Je suis toujours surpris de voir la façon dont les gens se mettent à écrire. Et de les voir se mettre à écrire, de voir aussi comment les uns et les autres. Dans leur parcours, d'écriture, la façon dont ça se passe me permet à moi aussi de m'interroger, de continuer à m'interroger sur ce qui est à l'œuvre. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tous les ateliers et de tout ce qui s'y passe, c'est vrai que. Mais je trouve que la façon dont l'écriture est à l'œuvre, et dont elle se met à l'œuvre, la façon dont elle se met au travail, ça m'intéresse
Ça
et j'en tire
maintient
des.
ton ouverture au monde.
Il y a de ça, et ça permet aussi de rencontrer des écritures vers lesquelles on n'irait pas du tout. Il y a des gens qui écrivent comme moi, je n'écris pas du tout. Et tout d'un coup, en rentrant dans l'atelier, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà aussi de me dire, tiens, cette façon-là ou cette couleur-là, c'est vrai que je l'oublie. Et du coup, ça élargit, ça enrichit le champ de ce que je peux écrire aussi.
Oui.
Je te sens pas convaincu, là.
Non, mais... j'essaye d'abord de bien saisir ce que tu veux dire. Donc, je fais oui. J'essaye de... Parce que si c'est un apport de la diversité, c'est de l'ordre de l'infini. Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des ateliers d'écriture pour ça. Et il y a forcément quelque chose d'autre. Parce que depuis que nous conversons, revient très souvent l'idée de l'autre en tant qu'adresse. Hein. Mmh. Tu écris une pièce pour quelqu'un, tu penses, tu infléchis l'écriture en pensant à un comédien. Je parle pas d'altérité parce que le mot serait trop ambigu, mais en tout cas, il y a une présence tierce toujours. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas nécessairement un spectateur, mais on dirait qu'il y a à la fois un va-et-vient entre l'écriture solitaire et la nécessité à un moment donné d'ouvrir, de se servir de cette écriture même, de la pièce même, pour, ou en tout cas de l'écriture même, comme une charnière, comme un truchement permettant d'entrer en contact.
Ouais, je...
Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas sceptique du tout. Hein. Je cherche à bien comprendre ce que tu nous dis. Moi, je ne suis absolument pas porté, on l'aura compris, enfin, tu le sais, je suis plus solitaire, il n'y a que les éléphants. Mais je comprends. Je me demande s'il n'y a pas là une ouverture technique aussi pour toi qui serait que les ateliers pourraient être aussi des personnages fictifs, tu vois, enfin dans leurs propos, dans le fait qu'il y a plusieurs personnes dans un atelier qui écrivent, ces personnes pourraient chacune venir représenter des monologues mis côte à côte, des vies parallèles, hein, pas comme Plutarque, mais...
C'est ce que je travaille beaucoup de cette façon-là, par exemple dans les ateliers d'écriture que je peux mener dans des établissements scolaires, par exemple.
Ouais.
Il est évident qu'en 10 heures ou 15 heures, je ne peux pas faire écrire une pièce à 30 ou 40 élèves. Donc je les mets en situation d'écriture. Et après, moi, je recollecte tout ça. C'est-à-dire que j'aime travailler cette matière-là. Ce que tu dis est tout à fait juste. Je me suis même dit à certains moments, je crois que je pourrais écrire en prenant des phrases, des bouts, des choses de choses que je n'aurais pas moi-même écrites, par exemple.
Ça fait penser.
Ça serait possible.
Ça fait penser à un auteur de bande dessinée qui s'appelle, je crois, enfin si ma mémoire est bonne, Claes. Ça s'écrit Claes, si ça vous dit quelque chose. Et cet auteur travaillait, il était édité dans Charlie Mensuel, à l'époque où c'était dirigé par Wolinski. Et il était édité dans La Suivre aussi. Et il travaillait à partir de photos. Vous voyez, donc toutes ces vignettes étaient composées de photos, mais des photos qui... une vignette pouvait être composée d'un collage de photos, d'une succession de photos dans laquelle certaines servaient du fond, le fond de la vignette, d'autres étaient les personnages, etc. Jean-Claude Claes, oui, je pense ne pas me tromper. Et donc on voyait apparaître des personnages comme ça extérieurs. Mais par rapport à ce qui peut pousser l'auteur, pendant que tu parlais, je pensais à une phrase de Plutarque qui dit ceci. Les chevaux qui ont été poursuivis par les loups courent toujours beaucoup plus vite. Et donc il posait toute la question de est-ce que ça participe du cheval ? C'est-à-dire que finalement, le cheval est un peu feignant, il fout les loups derrière pour qu'il galope. Ou est-ce que le fait d'avoir un loup derrière ou un appel du dehors fais galoper la bête. Si être comparé à un étalon ne te pose pas de difficulté. Mais c'est Plutarque qui le dit. Hein. Moi, je ne fais que le citer. Alors, maintenant, on va parler d'une autre dimension, le cinéma. Et le cinéma, tu as réalisé un film, je crois.
Alors, le film, ça, c'est une... Le cinéma, c'est une grande aventure aussi. Le film est au montage, là. Pour il y en a qui se posent des questions, je sais. Ça y est, il est enfin au
les
montage.
Les coproducteurs.
Voilà, c'est ça. Il est enfin au montage et ça sera fini pour le début de l'année. Ce qui me passionne dans le cinéma, c'est aussi l'écriture, justement. Oui. L'écriture du film. Parce qu'on pense cinéma, on pense image, mais il y a un tel boulot d'écriture en amont. Et ce travail-là me passionne. J'écris actuellement, j'ai fini d'écrire aussi un scénario pour un long métrage. À l'heure qu'il est d'ailleurs, là, à 18h, le dossier a été posé pour une demande à la région. Là aussi, c'est un travail.
C'est diffusé l'enregistrement, je crois.
Là aussi, c'est un travail qui est tourné vers l'autre, encore une fois.
Effectivement. Techniquement, ça a été... Parlons technique.
Ouais.
Le film a été tourné avec quoi ?
Ça a été tourné avec un Canon 5D. Donc, c'est un appareil photo dont on sert beaucoup pour les films...
Vidéo numérique.
Ouais.
C'est un long... C'est
non,
un...
non, là, c'est un court-métrage.
Non, non, mais la longueur, c'est...
Là, c'est 15 minutes.
15 minutes.
Ouais.
Et le montage, tu travailles comment ?
C'est... Alors le montage, j'ai travaillé avec un monteur, là, c'est récent, il y a une dizaine de jours. Ouais. Voilà, donc on a commencé tout le travail. Là par contre, je suis un peu dictatorial. Hein. Je sais ce que je veux, je sais où je veux conduire mon film et l'emmener. Donc là c'est quelqu'un qui à la fois... obéit à ce que je lui demande et qui dans le peu de place qui lui reste essaye, mais c'est très important aussi, de me faire des propositions créatives, des choses.
Mais c'est un montage sur ordinateur.
Ouais, sur ordinateur, ouais, avec Avid, voilà.
Avid, logiciel. C'est quoi Avid?
Avid, c'est le logiciel.
Ah, je croyais que c'était qu'on revient plus tard. Dommage. Bon, l'histoire, tu la gardes encore, tu...
Oui, ça, on a le temps pour
on
ça.
On a le temps, d'accord. C'est-à-dire, ce sont des thèmes éloignés du théâtre. Il n'y a pas de piège. Hein. Ce sont des thèmes éloignés du théâtre.
Non, je pense pas. Ça reste.
Et quand tu dis un long métrage, tu penses à 1h30.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ouais,
ouais. Merci beaucoup d'être venu.
Un petit remerciement quand même particulier à Alain Julien d'être venu, de m'avoir accompagné ce soir. J'en suis très touché.
Merci.
Et merci à la librairie également pour son accueil.